l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Swann Baumier, bonjour.
Bonjour.
Tu travailles en tant que chargée de plaidoyer pour la régulation des entreprises multinationales au CCFD Terre Solidaire et dans le cadre du contre-sommet G7 qui a lieu cet été au Pays Basque. Tu animes différents ateliers. Alors tu peux nous expliquer un petit peu comment les plus puissants se partagent de façon complètement injuste le gâteau des richesses et des ressources au niveau international ?
Oui, donc le CCFD Terre Solidaire, on est une association de développement et on lutte depuis plusieurs années contre l'impunité des multinationales. Et on est présent à l'Alter G7 parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les pays les plus puissants de la planète sont capables, dans une très large mesure, ou en tout cas essaient fortement, d'imposer leur vision du monde à l'ensemble de l'humanité. On le voit à Biarritz, ces 7 grands pays qui sont parmi les plus puissants de la planète se rassemblent et à huis clos vont décider de la façon dont on va organiser la fiscalité, de la façon dont on va organiser les échanges commerciaux, de comment on répond aux feux de forêt en Amazonie, de qu'est-ce qu'il faut faire pour le commerce, l'alimentation, des thèmes qui nous touchent chacun, chacune de par le monde. Et nous, on pense au CCFD Terre Solidaire que s'il y a des instances qui doivent penser le bien commun au niveau mondial, c'est les Nations Unies qui sont l'organe légitime. Et ce n'est pas à 7 pays ultra riches qui ont profité d'une colonisation puis d'un néocolonialisme par nos grandes entreprises de décider seuls à huis clos de la façon dont le monde doit s'organiser.
Alors tu parles de bien commun, mais peut-être que juste eux, ils ne voient pas les ressources naturelles et les richesses comme un bien commun. Ils voient surtout le développement économique en fait, et dans une vision où chacun essaye d'en avoir le plus pour soi. Donc c'est un système économique, c'est typiquement ce qu'on appelle le capitalisme, d'essayer d'en garder le plus pour soi.
Oui, c'est ça. Alors c'est le capitalisme, c'est surtout même plus que du capitalisme, c'est vraiment le néolibéralisme, c'est-à-dire les entreprises qui, avec l'aide de certains États très puissants, vont devenir des véhicules pour l'accaparement des ressources, pour l'accroissement des richesses pour une petite minorité. On le voit aujourd'hui, le capitalisme et les États puissants de la planète sont capables de façonner les accords de commerce internationaux, de façonner le droit international pour que leurs intérêts économiques soient mieux représentés que les intérêts, les droits humains, la protection de l'environnement des populations affectées et de l'ensemble de l'humanité qui finalement doivent être mises au service, selon ces grandes puissances, doivent être mises au service d'une économie de la croissance. Les actionnaires, ce n'est pas l'ensemble des citoyens, des citoyennes de France et du monde. Et donc aujourd'hui, ce qui est bon pour des entreprises n'est pas forcément bon pour l'humanité. Et c'est cette idée qu'on combat avec extrêmement de vigueur ici à cet Alter G7 pour dire non, défendre les droits humains, défendre la planète, défendre la vie humaine sur Terre, une vie digne pour chacun et chacune, ce n'est pas permettre aux multinationales d'avoir un pouvoir de plus en plus important, d'avoir des accords de commerce qui leur donnent tous les droits et qui ne leur donnent aucune obligation.
Donc en fait, la vision des altermondialistes réunis ici au contre-sommet G7, c'est plus une vision d'une économie qui serait multilatérale. C'est un autre système de gouvernance mondiale. Tu peux nous expliquer un peu ?
Oui, donc le but, c'est que vraiment l'idée que nous portons dans tous les collectifs qui sont rassemblés à cet Alter G7, c'est de dire comment est-ce que l'économie est remise au service des citoyens et des citoyennes, comment est-ce que on arrive à s'organiser au niveau mondial pour passer de la compétition à la solidarité. Les Nations Unies, ça regroupe les 196 États membres de la planète qui vont ensemble construire, négocier, penser le bien commun et écrire en droit international un certain nombre de règles qui doivent être adoptées par l'ensemble de ces États. Donc c'est l'ensemble des États qui prennent les décisions. Le G7, par exemple, ce sont 7 États qui vont essayer, soi-disant, de prétendre représenter l'intérêt général de l'ensemble de l'humanité. les Nations Unies sont l'instance qui, depuis 1945, depuis la création des Nations Unies, ont écrit une charte universelle sur les droits humains, pensent à comment est-ce qu'on combat les crimes contre l'humanité, comment est-ce qu'on régule l'économie, comment on organise nos relations internationales pour essayer de défendre les biens que sont les droits humains, l'environnement. Aujourd'hui, par exemple, sur les questions fiscales, un certain nombre d'États peu puissants qui sont rassemblés, d'États plutôt en développement et émergents, rassemblés au sein de ce qu'on appelle le G77, demandent à ce qu'on crée à l'ONU un organisme fiscal international pour penser les règles fiscales pour le bien commun de l'humanité. Et le G7 va au contraire se positionner pour définir ses règles fiscales tout seul, donc en mettant ses intérêts propres, les intérêts des pays riches, en avant. Et on a la même question qui se repose pour la façon dont on règle les questions de commerce international, de la façon dont on va encadrer l'activité des multinationales. Là aussi, on a une très forte tension entre, d'un côté, les États puissants de la planète qui vont dire que l'encadrement des multinationales doit se faire de façon volontaire, par des codes de conduite, par ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, mais qui doit être non contraignante, et que la bonne volonté et les entreprises vont d'elles-mêmes se mettre au service de l'humanité. Et on voit que ce discours-là, ça fait 40 ans qu'il existe, et les scandales sociaux, environnementaux se multiplient, les inégalités augmentent. Donc il faut aller au-delà de ces simples engagements volontaires, de cette simple RSE qui ne porte absolument pas les réponses que nous attendons. Et donc, de la même façon, il y a en ce moment des débats à l'ONU pour que les 196 États membres des Nations Unies définissent ensemble un traité international contraignant relatif à l'activité des multinationales et à leur impact sur les droits humains.
Et aujourd'hui, il y a une campagne, une pétition, justement, pour réguler ces activités, et ça va complètement à contre-chemin de la signature du CETA ou ce genre de choses.
Oui, tout à fait. Donc, depuis maintenant janvier 2019, on avait lancé cette grande campagne européenne à la veille de l'ouverture du sommet de Davos, et nous portons, dans le cadre de cette mobilisation, une pétition qui s'appelle la pétition Stop Impunité, que vous pouvez retrouver sur un site internet qui s'appelle stop-impunité.fr, qui a déjà recueilli 600 000 signatures et qui vise à demander ou à exiger même des institutions européennes et des États membres de l'Union européenne de mettre fin à l'impunité des multinationales, de garantir un certain nombre de réformes en droit, donc en l'occurrence pour les Français, en droit européen, en droit international à l'ONU, pour que réellement les entreprises multinationales cessent d'avoir accès à une justice d'exception, pour que les multinationales cessent d'agir en toute impunité. Quand on parle d'impunité des multinationales, certaines d'entre vous peuvent se dire que c'est un mot exagéré. Ce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est qu'on a un système qui est présent dans le CETA et qui a fait grand bruit, qui s'appelle l'arbitrage investisseur-État. C'est aussi connu sous l'acronyme anglais de ISDS. C'est un système qui permet aux multinationales et exclusivement à des multinationales d'attaquer les États. D'attaquer les États et de leur demander des millions, voire des milliards, en compensation dès lors que ces États adoptent démocratiquement des lois qui vont à l'encontre de leurs profits. En cours en ce moment, il y a une entreprise suédoise, Vattenfall, qui demande à l'Allemagne 4,7 milliards d'euros parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima. C'est-à-dire que l'entreprise se dit « j'avais prévu d'avoir une activité chez vous, vous allez m'en empêcher, ou si vous ne l'empêchez pas complètement, les profits que j'attendais de cette activité vont être moindres ». On le voit dans un cas qui a été révélé récemment en France, lorsque Nicolas Hulot a porté un projet qui s'appelait la loi Hulot sur les hydrocarbures, qui visait à mettre un terme à l'extraction d'énergie fossile en France. Une entreprise canadienne, Vermilion, a envoyé une lettre au Conseil constitutionnel français en leur disant « on voudrait que vous retiriez de la loi Hulot sur les hydrocarbures tel et tel chapitre. Si vous ne retirez pas ces chapitres, nous vous attaquerons en arbitrage en vous demandant 1 milliard de compensation pour des pertes sur des investissements et donc des gains futurs. » Et comme par hasard, le Conseil constitutionnel a supprimé de la loi Hulot sur les hydrocarbures les éléments qui étaient contestés par cette entreprise. Et donc c'est de l'extorsion parce que aujourd'hui on a des dizaines de cas dans lesquels les États, sous la menace d'une plainte en arbitrage, ne vont pas adopter les législations qu'elles souhaiteraient adopter parce qu'elles ont peur de se retrouver mises à l'index par des multinationales qui vont leur demander des centaines de millions ou des milliards de dédommagements. On a 942 cas connus d'arbitrage ISDS qui sont en cours ou qui ont été résolus. Et à ce jour, il y a 88 milliards de dollars qui ont été payés par différents États à des multinationales, c'est-à-dire 88 milliards de finances publiques, donc de nos impôts, et ces impôts se retrouvent dans la poche de multinationales et donc dans la poche d'actionnaires. Et il faut se rendre compte que surtout, ce système ne bénéficie quasi exclusivement qu'aux grandes entreprises multinationales et aux grandes fortunes, puisque 94% de ces 88 milliards sont allés à des entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui dépassent le milliard d'euros ou à des individus qui ont plus de 100 millions de richesses personnelles. Donc c'est vraiment un service, un système de droit international au service des plus puissants, au service des multinationales les plus puissantes, au service des individus les plus riches.
C'est complètement inadmissible. Donc c'est contre ça que vous luttez au CCFD, justement pour limiter ces impunités et ces droits exorbitants des multinationales.
Nous, au CCFD Terre Solidaire, avec plus de 200 organisations de la société civile européenne, on dénonce un système organisé d'impunité des multinationales, une architecture du droit international qui rend ces entreprises toutes puissantes, qui leur accordent une justice à la carte avec des super pouvoirs et pas d'obligations.
Mais il y a un truc très extraordinaire, c'est qu'entre le Canada et les États-Unis, ils ont décidé de ne pas se faire la guerre.
Les États-Unis et le Canada se sont dit qu'il était peut-être mieux pour leurs finances publiques et la protection de leur démocratie de cesser cette guerre via par multinationales interposées, donc elles ont retiré l'arbitrage investisseur-État de leur accord bilatéral. Mais elles le conservent vis-à-vis des pays émergents, vis-à-vis des pays en développement, parce qu'elles savent que ce sont leurs multinationales qui sont capables d'attaquer ces États et qu'à l'inverse, ces États ont peu de multinationales susceptibles de les attaquer. Il y a des entreprises américaines, des entreprises canadiennes qui attaquent l'Europe, mais il y a aussi des entreprises européennes qui surtout attaquent l'ensemble des pays émergents, l'ensemble des pays en développement. La très très vaste majorité des cas d'arbitrage ont affecté des pays en développement, ont affecté des pays qui ont donc besoin de ressources fiscales, de ressources financières pour se développer, pour promouvoir les droits humains, la protection de l'environnement, sortir les gens de la pauvreté par des politiques publiques progressistes. Et aujourd'hui, on les ampute de ces moyens. Encore il y a maintenant un mois de cela, un panel d'arbitrage a exigé du Pakistan de payer 5,6 milliards de dollars à une entreprise canadienne, Barrick Gold, qui fait de l'exploitation de mines d'or, alors que l'entreprise avait investi dans ce pays 200 millions. Et là où il faut se rendre compte de l'impact que ça a sur les politiques publiques, par exemple pour lutter contre la pauvreté au Pakistan, c'est que le Pakistan venait d'obtenir un prêt du FMI équivalent. Donc l'ensemble des citoyens du monde qui contribuent au fonds du FMI ont donné un prêt au Pakistan et le Pakistan, l'ensemble quasiment de ce prêt accordé par le FMI au Pakistan, va finir dans la poche de Barrick Gold.
حرامية انت كبر حرامية يا بنية ولي بنية انت كبر حرامية بكتي قلبي جدامي انتي قلبي جدامي شغل الشغل معلمية بكتي قلبي جدامي شغل الشغل معلمية
au niveau de l'agro-industrie, parce que là on parle de questions à la fois d'environnement sur l'accaparement des terres, de souveraineté alimentaire, de droits des peuples, etc., d'énormément de questions. Tu peux nous décrire un peu ces impacts ?
Aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'agro-industrie et après on pourrait décliner secteur par secteur, on se rend compte que les multinationales, donc elles bénéficient de ce système d'arbitrage investisseur-État, mais surtout, elles n'ont pas d'obligation de respecter en droit international les droits humains et l'environnement. Or, on se rend compte que le secteur de l'agroalimentaire est responsable d'impacts massifs sur les droits humains et l'environnement. Aujourd'hui, on a 25 millions de travailleurs agricoles qui souffrent de maladies professionnelles liées à l'usage de pesticides. Et les géants de l'agroalimentaire ne vont pas finalement être redevables de la santé des travailleurs qui sont inclus dans leur chaîne de valeur. C'est-à-dire que la personne qui, en Afrique de l'Ouest, va cultiver du cacao, la multinationale qui finalement contractualise avec ses petits producteurs, ne va pas être responsable des maladies professionnelles des petits producteurs qui cultivent du cacao en Afrique de l'Ouest. De la même façon, sur les semences, on voit que aujourd'hui, on a 12 espèces végétales et 5 espèces animales qui assurent les 3 quarts de l'alimentation mondiale. Et ces 12 espèces végétales et ces 5 espèces animales, finalement, elles sont contrôlées par des brevets sur le vivant, par un nombre très restreint d'entreprises extrêmement puissantes qu'on connaît, Monsanto, Bayer, BASF, etc. C'est-à-dire que protéger la biodiversité, quand on a une harmonisation du vivant à une telle échelle, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, on n'a aucun instrument juridiquement contraignant qui va contraindre ces entreprises à assurer la protection de la biodiversité. De la même façon, on a des multinationales qui, aujourd'hui, essaient de s'étendre en accaparant des terres, c'est-à-dire elles vont acheter de façon massive des terres dans d'autres pays pour s'assurer des terres agricoles, s'assurer l'accès à l'irrigation, etc. Et donc c'est autant de terres qui sont perdues pour les petits paysans, pour les populations autochtones, pour les riverains de ces pays qui se retrouvent dépossédés de leurs moyens de subsistance. Et aujourd'hui, nous devons mettre fin à l'arbitrage investisseur-État, l'arbitrage ISDS qui permet aux multinationales de mettre l'idéal démocratique en danger et à l'inverse, de soumettre ces entreprises multinationales à des règles en droit français, en droit européen, en droit international, pour qu'elles soient contraintes de respecter les droits humains et l'environnement, et que si elles ne le font pas, elles en soient redevables devant la justice, devant les tribunaux.
Tu peux nous présenter plus précisément le devoir de vigilance ?
Le but, c'est qu'aujourd'hui, on puisse permettre aux personnes qui sont affectées par l'activité des entreprises multinationales d'avoir accès à la justice. Donc je vais m'expliquer avec un cas très simple. On a tous et toutes entendu parler du Rana Plaza, vous savez, cette usine textile qui s'est effondrée au Bangladesh en 2013 et qui a occasionné la mort de 1137 ouvrières de l'industrie textile. La structure était fragile. Les ouvrières se sont rendues compte qu'il y avait des fissures dans les murs de leur usine et donc n'ont pas voulu rentrer dans le bâtiment en disant « il y a plein de fissures dans le bâtiment, ça se peut, il va nous tomber dessus ». Et le dirigeant de cette entreprise leur a dit, si vous ne rentrez pas dans le bâtiment pour travailler, vous allez perdre votre emploi, vous êtes viré. Et quelques heures plus tard, le bâtiment s'est effondré sur elle. À ce moment-là, les gens se sont dit, mais il faut qu'on indemnise les familles qui ont perdu une personne dans cette catastrophe, et il faut indemniser les personnes qui ont été blessées et qui en ressortent avec des handicaps à vie. Mais le problème, c'est que les entreprises qui donnaient les ordres, c'était des géants de l'industrie textile et les grandes marques occidentales, mais ces grandes marques occidentales n'ont pas de bureaux, elles n'ont pas d'usines au Bangladesh. Le Bangladesh produisait dans des petites usines pour ces marques via des sous-traitants et des chaînes en cascade. Ce qui fait que la justice au Bangladesh ne peut pas saisir leurs biens et donc ne peut pas indemniser en versant des dommages et intérêts aux familles. Et donc il faut que les familles puissent aller devant les cours de justice susceptibles de saisir des biens de ces entreprises et donc d'aller en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Suède, que sais-je, au siège de ces multinationales. Et aujourd'hui, aucun instrument en droit ne permet de faire cela. Et donc, en France, on s'est mobilisé depuis une dizaine d'années pour essayer d'avancer vers une responsabilité juridique des multinationales et un collectif d'ONG a porté un projet qui a finalement été adopté, et c'est une première mondiale, ça s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, et ça oblige toutes les grandes entreprises françaises à répondre de leurs actes et des potentielles violations aux droits humains et des potentielles dégradations graves de l'environnement qui ont lieu dans toute leur chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est affectée par l'activité d'une multinationale française peut aller devant un tribunal français pour demander réparation et donc pour demander des comptes devant la justice. Cette loi sur le devoir de vigilance, pour le moment, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que ce sont les entreprises qui ont plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 salariés dans le monde qui sont concernées. Mais au-delà de ce problème du seuil, qui devrait être abaissé, la question se pose de savoir qui sont ces entreprises qui ont 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde. Et quand on a demandé, durant les débats parlementaires et à la suite de l'adoption de la loi, d'avoir une liste officielle des entreprises qui sont soumises à cette loi, le gouvernement nous a répondu, interpellation après interpellation de notre part, qu'il ne pouvait pas nous fournir cette liste. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons continué avec des ONG, des syndicats, des députés, à interpeller, à demander au gouvernement de nous fournir cette liste, mais nous n'avons pas attendu que le gouvernement nous répondent parce que nous ne savons pas s'ils vont finalement nous donner cette liste. Et donc nous avons lancé avec l'association Sherpa, le CCF des Terres Solidaires et Sherpa, nous avons lancé un site qui s'appelle plan-vigilance.org qui va recenser l'ensemble des sociétés qui sont a priori soumises à cette loi. À ce jour, nous n'avons pas les moyens, nous, société civile, d'être certains que cette liste est exhaustive, mais nous avons déjà identifié 237 entreprises françaises qui sont a priori soumises à cette loi. Les 237 entreprises sont listées sur notre site, donc plan-vigilance.org, et le but, c'est de rendre accessible sur ce site l'ensemble des plans de vigilance que ces entreprises adoptent pour modifier leur modèle d'affaires, pour ne pas être complices dans les années à venir de violations des droits humains, pour ne pas être complices de violations à l'environnement. Et aujourd'hui, on a donc un ensemble d'acteurs de la société civile qui se mobilisent pour faire appliquer cette loi. Le CCF des Terres Solidaires, on a un certain nombre de recommandations pour que les entreprises changent. On a porté ce site internet pour permettre la transparence sur l'application de cette loi. Et aujourd'hui aussi, on porte dans le cadre de cette grande campagne Stop Impunité et dans le cadre de cette pétition européenne, des demandes fortes auprès des parlementaires et auprès de la Commission européenne, auprès des Nations unies, pour adopter une directive européenne sur le devoir de vigilance, pour adopter un traité à l'ONU sur les multinationales et les droits humains. Effectivement, le but, ce n'est pas que l'on ait un petit îlot de vertu des entreprises françaises, mais le but, c'est que vraiment, les personnes de par le monde voient leurs droits humains et voient leur environnement respecté par l'ensemble des acteurs de l'économie. Donc on a commencé avec cette loi française et maintenant nous portons de façon extrêmement forte des demandes pour une directive européenne et pour un traité. Il faut se rendre compte que cette demande d'une directive européenne et cette demande d'un traité à l'ONU, c'est pas une demande en l'air naïve, c'est quelque chose qui est en cours. C'est en cours, il va falloir qu'on se batte dans les années à venir, c'est pour ça qu'il y a cette pétition, mais on a des discussions qui sont en cours. L'Allemagne parle d'une loi sur le devoir de vigilance, l'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas viennent d'adopter une loi sur le devoir de vigilance relative au travail des enfants. C'est aussi discuté au Luxembourg, en Slovénie. Donc on a beaucoup de pays européens qui veulent répliquer notre loi française sur le devoir de vigilance. La Finlande, par exemple, dans son accord de coalition pour le gouvernement, vient de reconnaître qu'il fallait, dans la mandature finlandaise en cours, adopter une loi sur le devoir de vigilance nationale si l'Union européenne n'adoptait pas une directive. Aujourd'hui, la DG Justice, donc la Commission européenne, a lancé une grande enquête auprès de la société civile et auprès des entreprises et auprès des États pour savoir comment est-ce que l'Union européenne pourrait mettre en place cette directive. On a le Parlement européen qui a déjà commandité des études sur le devoir de vigilance. On a un groupe de travail transpartisan du Parlement européen et on a 56 eurodéputés français qui se sont engagés lors des élections qui ont eu lieu en mai. On a 56 eurodéputés français qui se sont engagés à porter une directive européenne sur le devoir de vigilance. Donc c'est en cours. La question va être de savoir à quel point cette directive va être ambitieuse ou pas. Donc il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se dire que tout est gagné. Mais ce n'est pas une demande qui sort de nulle part. Des processus, des discussions, des groupes de travail se sont déjà formés et sont à l'œuvre au sein de l'Union européenne, à Bruxelles, pour avoir cette directive. Et de la même façon, à Genève, depuis maintenant 4 ans, les États se réunissent chaque année, les 196 États des Nations Unies sont invités chaque année à négocier un traité, et c'est une première dans l'histoire des Nations Unies d'avoir un tel processus où les 196 États sont invités à négocier un traité qui va contraindre les multinationales à respecter les droits humains de par le monde. Aujourd'hui, la France soutient ce traité en cours de négociation à l'ONU. L'Union européenne, elle, est beaucoup, beaucoup plus timide et ne sera pas présente lors du prochain round de négociation qui aura lieu la semaine du 12 octobre.
Raison de plus pour signer votre pétition pour un devoir de vigilance des multinationales.
Oui, tout à fait. Donc, dans toute l'Europe, la semaine du 12 octobre, nous allons nous mobiliser, faire connaître le scandale de l'arbitrage investisseur-État, faire connaître les solutions que nous portons avec cette loi sur le devoir de vigilance et avec cette possible directive européenne, mais surtout avec cette négociation qui vont avoir lieu du 14 au 18 octobre à Genève pour avancer vers un traité contraignant sur les multinationales. Et là-dessus, vous verrez qu'on aura un certain nombre d'organisations de la société civile française, puisqu'il y a 46 organisations de la société civile française qui sont membres de cette campagne Stop Impunité pour demander des droits pour les peuples et des règles pour les multinationales. Et nous allons nous mobiliser partout en France la semaine du 12 octobre. Et donc nous, on vous invite à signer la pétition dès que possible et à faire connaître autour de vous cette pétition, à faire connaître l'arbitrage investisseur-État pour que réellement les États cessent de donner des super pouvoirs à ces multinationales et qu'au contraire, elles viennent mettre dans le droit européen et dans le droit international des règles claires, contraignantes, qui vont rendre les multinationales responsables de leurs actes devant la justice. Et c'est possible, et le 12 octobre, dans toute la France, dans toute l'Europe, il y aura des actions qui vont être menées pour mettre en avant ce processus et dénoncer l'hypocrisie de l'Union européenne et appeler les États membres de l'Union européenne à prendre leurs responsabilités et à venir le 14 octobre à Genève, le lundi matin, que les États européens viennent dans la salle à Genève donner leur avis et proposer des actions et des éléments constructifs pour que ce traité fonctionne et soumette l'ensemble des multinationales à un régime de droit international qui va les obliger à respecter les droits humains et va permettre l'accès à la justice pour les personnes affectées.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet. Bathroom.